Chapitre 22. Le réveil de Bobby se déclencha à 5 heures. Trouvant la chose désagréable, il appuya sur le bouton d'arrêt momentané. Cela lui donna 2 minutes supplémentaires, puis ce fut son téléphone qui sonna. Didi, évidemment. « Est-ce que ça t'arrive de dormir ?» demanda-t-il. « Tu te prends pour ma mère, connard ?»« Là, tu vois, c'est pour ça que tu as besoin de te reposer. » « Bobby, il nous reste 3 heures avant de partir pour l'aéroport. Ramène ton cul !»
Présenté comme ça, la perspective ne le motivait pas tellement. Moyennant quoi, il se doucha, se rasa, prépara son sac et se servit une tasse de café noir fumant.
Le temps de rejoindre la chambre de Didi, elle paraissait à 2 doigts de l'explosion. Il crut qu'elle allait se lancer dans une nouvelle diatribe, mais au dernier moment, elle sembla se rendre compte de son erreur et lui tint la porte ouverte. On aurait dit que sa chambre d'hôtel avait été dévastée par un ouragan. Papier épars, café renversé, restes de nourriture sur un plateau de service d'étage. Quelles qu'aient été ses activités depuis la dernière fois que Bobby l'avait vue, elle ne lui avait laissé aucun repos.
« J'ai déjà parlé au gérant de l'hôtel, » lança-t-elle sans préambule.
« Il a promis de nous prévenir immédiatement si Annabelle essaie de rendre sa chambre. »
Bobby la regarda.
« Parce que si Annabelle décide de mettre les bouts, elle aura naturellement le bon goût de commencer par rendre sa chambre en bonne et due forme. »«
Oh mon Dieu !» Didi, assieds-toi. Souffle un coup.
« Seigneur, encore un peu et tu vas danser la conga avec les Looney Tunes. »
Il secoua la tête exaspéré. Elle lui jeta un regard noir. Elle portait les mêmes vêtements que la veille, mais tout chiffonné et sentant la sueur d'une journée. Son teint était cireux, ses cheveux blonds frisottés, ses yeux bleus injectés de sang.
« Didi, essaya-t-il encore, tu ne peux pas continuer comme ça.
Au premier regard, le commissaire divisionnaire reprendra les commandes et t'enverra voir ailleurs. Il ne suffit pas de gérer l'épuisement des troupes, il faut aussi gérer le tien.
Ne le prends pas sur ce ton-là avec moi.
Regarde-toi dans le miroir, Didi.
Tu ne vas pas me faire la leçon sous prétexte que je fais mon boulot.
« Regarde-toi dans le miroir, Didi.
Tu apprendras que je fais partie de ces gens qui n'ont pas besoin de beaucoup de sommeil. »
Il la prit par les épaules et la fit pivoter avec autorité vers le miroir accroché au mur.
« Putain de merde !»
s'exclama-t-elle.
« Je ne te le fais pas dire. »
Elle tâta sa tignasse enchevêtrée.
« C'est l'humidité.
On est en Arizona.
Un nouveau soin capillaire ?»
« Didi, tu as besoin de dormir, sans parler de prendre une douche et 2 semaines de vacances à Tahiti, mais dans l'immédiat, essaie un bain. »
Elle plissa le nez, finit par soupirer, se voûta.
« Il y a tellement de pièces dans ce puzzle, » dit-elle d'une voix lasse, « et aucune ne colle avec les autres. »«
Je sais. »
« Christopher Eola, Richard Ombrio, le père d'Annabelle, la tête me tourne. »
Bobby prit la chaise du bureau, s'assit, noua ses mains derrière sa tête.
« Bon, alors discutons-en. Novembre 1980. »
Umbrio enlève une jeune fille et la planque dans une cavité souterraine qu'il a comme par hasard découverte dans les bois.
Didi se laissa tomber au bord du lit, se pencha en avant et planta ses coudes sur ses genoux.
« Nous pensons que c'est son premier méfait, accompli tout seul, » posa Bobby.
« Conformément à son profil de solitaire doté d'une sociabilité anormalement basse. »
Sa victime est prise au hasard, au gré des circonstances,
parce qu'elle a les goûts vestimentaires attendus, corrigea Didi.
Mais aussi parce qu'elle est seule et qu'elle mord à l'hameçon. L'élément à retenir, c'est l'absence de préméditation, ce qui fait déjà une différence essentielle entre Umbrio et l'inconnu qui pourchassait Annabelle Granger.
Catherine soutient mordicus qu'Umbrio préférait s'y prendre à main nue, continua Didi d'une voix hésitante.
Je n'en suis pas sûre, mais il m'a semblé que les victimes avaient quelque chose autour du cou, à l'intérieur des sacs plastiques. Une sorte de lien.
Il les avait attachés de manière particulièrement fantaisiste, reconnut Bobby.
Donc, encore une différence.
On suppose.
Umbrio n'a kidnappé qu'une seule victime.
L'inconnu de l'hôpital psychiatrique en a enlevé 6, mais peut-être une à la fois, donc toujours pas de certitude de ce côté-là.
Ouais.
Didi acquiesçait lentement. Elle semblait remise de sa crise, elle y voyait plus clair.
« Et puis, bien sûr, nous avons ce joli scoop au sujet du père d'Annabelle. »«
Oh ouais, il y a ça. » »«
Le père d'Annabelle nous ramène à notre première théorie. Quelqu'un, inspiré par le crime d'Umbrio, avait eu l'idée de le reproduire à l'hôpital psychiatrique de Boston.
On supposait que cette émule aurait essayé d'entrer en contact avec Umbrio en prison, peut-être en personne ou bien par courrier. Mais se faire passer pour un agent du FBI et cuisiner Catherine à l'hôpital, ça fait aussi bien l'affaire.
Oui, ça marche, convainc Bobby d'un air sombre.
Que donnent les recherches sur Russell Granger?
Bobby fit la grimace.
Toujours pas trouvé de permis de conduire ni de numéro de sécu. J'ai essayé plusieurs bases de données, plusieurs orthographes. J'ai essayé Leslie Ann Granger, la mère d'Annabelle. Zéro. Nada. Que dalle.
Autrement dit, Russell Granger est un pseudo.
Tu en sais autant que moi. J'ai réussi à joindre une directrice du personnel au MIT, juste avant qu'on quitte Boston. D'après elle, il n'y a aucune trace d'un Russell Granger dans les fichiers des RH. Elle essaie de retrouver l'ancien directeur du département de mathématiques dans les années 80 pour vérifier. Avec un peu de chance, je pourrai lui parler à la minute où on rentrera.
Et leur vie en cavale ? Demanda Didi.
À chaque fois que la famille d'Annabelle prenait ses clics et ses claques, il devait bien y avoir une raison. Tu as retrouvé les villes ? Interrogé la police locale ?
Bobby lui lança un regard.
Sûr, patronne. C'est typiquement le genre de coup de fil que je passe quand j'ai du temps libre. Tu sais, entre 2 et 4 heures du mat. Et si ce boulot devient trop dur pour toi, oh ta gueule, Didi.
Elle lui sourit. Rares étaient ceux qui se sentaient en position de lui dire de fermer sa gueule ces temps-ci. Il supposa que cela faisait partie de son charme. Mais elle reprit son sérieux.
Bobby, c'était quoi déjà le pseudo du père d'Annabelle à Boston?
Il la regarda déconcerté.
Russell Granger? Je croyais que c'était tout l'objet de cette conversation.
Pas en 1982, Bobby.
Plus tard, quand Annabelle et lui sont revenus à Boston. Elle est devenue Tanya Nelson, donc lui est devenu...
Monsieur Nelson, plaisanta Bobby. Il feuilleta son carnet à spirale. La première fois qu'ils avaient interrogé Annabelle au central de police, elle avait fourni une liste sommaire des villes, des pseudonymes et des dates. Il retrouva la page dans ses notes, la parcourut du regard, recommença deux fois.
Je n'ai pas Boston dans ma liste. Annabelle n'a pas parlé de leur retour.
Didi s'étonna.
Intéressante omission, tu ne trouves pas? Il y a beaucoup de villes et de pseudos, répliqua-t-il en montrant la page pour qu'elle se rende compte par elle-même. Nous-mêmes venons seulement de nous apercevoir qu'on avait laissé échapper cette information.
Didi semblait encore sceptique.
Trouve le pseudo de Boston, monsieur l'enquêteur. Fais des recherches dessus. Peut-être que Russell Granger a réussi à faire profil bas au début des années 80, mais que lorsqu'il est revenu pour la deuxième fois dans les parages... Ouais, je vois. Un jour, quelqu'un, quelque part, l'a reconnu.
Exactement. Dernière chose, pas un mot à Annabelle.
Je n'ai rien dit. Je veux la jouer prudent. Si Russell Granger est la clé de tout ça, notre seul lien avec lui est Annabelle, ce qui signifie qu'on va avoir besoin de sa coopération si on veut arriver à quoi que ce soit.
Didi s'interrompit.
Et il faut qu'on reparle à Catherine.
Il faut que je reparle à Catherine, tu veux dire?
Ne le prends pas mal, mais comme tu l'as fait remarquer, le temps est compté, et il vous faudrait une demi-journée à toutes les deux rien que pour épuiser votre agressivité.
Il nous reste environ 2 heures, dit-il en regardant sa montre,
ce qui signifie que Catherine est pour moi et que toi, tu surveilles la petite Annabelle.
Il regarda la chambre.
Tu pourrais peut-être la mettre à faire le ménage?
Très drôle.
Promets-moi que tu vas prendre une douche.
Encore plus drôle.
Mettre des vêtements propres ?
Il se levait.
Elle lui donna une claque sur le bras. Ça lui fit un mal de chien. Il en conclut qu'elle allait mieux. Rendez-vous à l'aéroport, dit-il par-dessus son épaule.
Je meurs d'impatience.
Il fallut 10 minutes à Bobby pour attraper son sac, quitter sa chambre et héler un taxi. Le soleil se levait à peine, donnant au ciel une teinte rose peu naturelle, zébrée de mauve. Il n'allait pas être embêté par la circulation. Il doutait que Catherine soit debout à cette heure-là. Cela pouvait jouer en sa faveur ou le contraire. Il se demanda si elle faisait toujours des cauchemars, et si oui, ses rêves étaient-ils hantés par Richard Umbrio ou par son défunt mari? Il fallut s'y reprendre à deux fois pour qu'une voix réponde à l'interphone à l'extérieur du portail sophistiqué. Le chauffeur de taxi ouvrit de grands yeux en entrant dans la propriété, mais ne dit pas un mot.
« Vous pouvez m'attendre ?» demanda Bobby en lui montrant sa plaque.
Ceci eut plutôt pour effet d'inquiéter davantage l'hispano-américain voûté.
« C'est d'accord, vous pouvez laisser tourner le compteur, » lui assura Bobby.
« À la seconde où ce rendez-vous sera terminé, il faudra que je file à l'aéroport.
Ce serait bien qu'un taxi soit déjà là à m'attendre. »
Le chauffeur accepta à contre-cœur et Bobby, satisfait, hocha la tête. Il voulait que le taxi soit visible depuis la maison, subtil rappel qu'il ne faisait que passer. La gouvernante ouvrit la porte. Elle ne laissa paraître aucune surprise de le voir et lui dit simplement que la señora le rejoindrait bientôt. Désirait-il boire quelque chose? Bobby déclina, puis la suivit dans l'atrium, où elle lui montra une petite table d'extérieur ornée d'un superbe pan en mosaïque et sur laquelle était disposé un service à café en argent. Il prit un siège, se servit une tasse de café et s'efforça de ne pas regarder sa montre. Il se demanda combien de temps Catherine allait le faire attendre, pour se faire désirer ou pour le punir. Avec elle, on ne savait jamais trop. La réponse fut un quart d'heure. Lorsqu'elle fit enfin son apparition, elle portait un peignoir en satin bleu roi ceinturé à la taille. Le long tissu ondulait au rythme de ses mouvements, tandis qu'elle s'approchait de lui, et sa couleur profonde mettait en valeur ses cheveux noirs brillants. Un sourire jouait avec les coins de sa bouche. Il reconnut immédiatement son allure. La première fois que Bobby avait rencontré Catherine après la fusillade, c'était au musée Isabelle Stewart Gardner. Elle se tenait devant un tableau de Whistler, Lapis Lazuli, qui représentait une femme nue alanguie sur des flots opulents de tissu oriental bleu. Catherine avait fait une remarque sur les courbes sensuelles du tableau, l'érotisme de la pose. À l'époque, elle avait choisi ce tableau pour le troubler, tout comme maintenant elle avait choisi ce peignoir. Et il avait beau savoir à quoi s'en tenir, il sentit son ventre se contracter. Elle s'approcha de lui, s'arrêta devant la table, ne s'assit pas.
« Je vous manque, capitaine. »
On m'a dit que le café était bon.
Le sourire de Catherine s'épanouit.
Toujours à jouer les inaccessibles.
Et toujours aussi fine mouche, reconnut-il. Comment va Nathan ce matin?
Une ombre passa dans le regard de Catherine.
La nuit a été difficile. Je crois qu'il n'ira pas à l'école aujourd'hui.
Des cauchemars?
Ça arrive. Il voit un bon psy maintenant, et puis il a son chien. Qui aurait pensé que le propre chiot de Richard Umbrio pourrait l'aider autant? Mais ce chien l'apaise, souvent mieux que je ne peux le faire. Je crois qu'il fait des progrès.
Et toi?
Elle lui lança un regard espiègle.
Je suis beaucoup trop vieille pour confier à un parfait étranger comment je me sens réellement.
Elle prit enfin une chaise, s'assit avec grâce. Il lui versa une tasse de café dans une porcelaine fine comme du papier. Elle l'accepta sans un mot. Pendant quelques instants, l'un et l'autre burent leur café en silence.
« Tu es là à cause d'Annabelle ?» dit enfin Catherine.
« Parce que j'ai reconnu son père. Ça nous a fait comme un choc, » admit-il. « Tu peux m'en parler ?»«
Qu'y a-t-il à dire ? J'étais à l'hôpital. Il est venu dans ma chambre et il m'a posé des questions. »«
Il t'a donné un nom ?»
Non, il a juste dit qu'il était agent spécial au FBI. »
Bobby eut l'air étonné, mais elle reposa sa tasse de café, on ne peut plus sérieuse à présent.
« Je me souviens de lui uniquement parce qu'il n'arrêtait pas de me contredire. J'étais à l'hôpital, heureuse que tout le monde soit enfin parti au lieu de me poser toutes sortes de questions ridicules. « Comment tu te sens, Catherine? De quoi as-tu besoin? Est-ce qu'on peut t'apporter quelque chose ?» Franchement, j'étais affamée, déshydratée et à moitié dingue à force d'avoir été violée. Ce dont j'avais besoin, c'était que tout le monde me foute la paix. Et alors, cet homme est entré en costume et cravate sombre. Pas très grand, mais assez séduisant. Il m'a montré sa plaque et s'est présenté, agent spécial FBI. Juste comme ça, avec autorité. Je me souviens d'avoir été impressionnée. Le ton était ferme, sévère, comme on s'y attend de la part d'un agent du FBI.
Qu'est-ce qu'il a fait, Catherine ?
Elle haussa les épaules.
Il m'a posé des questions de policier, de quoi je me souvenais à propos du véhicule, couleur, marque, modèle, immatriculation, intérieur. Est-ce que je pouvais décrire le conducteur, taille, poids, couleur de peau, âge, origine ethnique ? Qu'avait-il dit, qu'avait-il fait ? Où m'avait-il emmené ? Comment y étions-nous allés, etc. Ensuite, il m'a montré un croquis.
Un croquis ?
Oui, un dessin au crayon, en noir et blanc, bien détaillé, comme ce que ferait un dessinateur de la police, j'imaginais. J'avais beaucoup d'espoir, parce que personne n'avait encore essayé d'identifier mon agresseur. Mais le croquis ne représentait pas Umbrio.
Bobby cligna plusieurs fois des yeux.
Le croquis ne représentait pas Richard Umbrio ? Non, l'homme sur le dessin était plus petit, le bas du visage plus raffiné. Quand j'ai dit ça à monsieur l'agent spécial, il ne l'a pas trop bien pris.
Comment ça ?
Eh bien, il a commencé à me contredire. Peut-être que je ne me souvenais pas très bien, il faisait sombre, j'étais sous terre. Franchement, il commençait à m'énerver, mais à ce moment-là, la porte s'est ouverte, une infirmière est entrée et il est parti.
Monsieur l'agent spécial est parti juste comme ça ?
Oui, il a refermé son calepin et a quitté la scène côté jardin.
L'infirmière a dit quelque chose ?
Pas que je me souvienne.
Bobby fronça les sourcils, essaya d'assembler les pièces du puzzle.
Monsieur l'agent spécial a laissé un nom, des coordonnées, une carte de visite ?
Non. Est-ce que tu as parlé de sa visite à quelqu'un ? La police ? Tes parents ?
Catherine secoua la tête.
Tout le monde me posait des questions. Un policier de plus ou de moins dans la chambre. Mais il est revenu. Le jour de ma sortie. Il y avait une infirmière dans la chambre cette fois. Elle prenait ma tension. La porte s'est ouverte. Il est apparu. Même allure que la fois d'avant. Costume sombre, chemise blanche, cravate sombre. Peut-être le même costume maintenant que j'y pense. Cette fois-ci, il a montré sa plaque à l'infirmière et expliqué que nous avions besoin de rester seuls une minute. Elle s'est empressée de sortir. Il s'est approché de mon lit, a sorti son calepin. Il a repassé toutes les questions en revue. Il parlait d'une voix plus douce cette fois-ci, mais je l'aimais moins. Tout le monde me demandait tout et ne m'informait de rien, et puis, évidemment, il a ressorti le croquis.
Le même ?
Exactement le même. Sauf que cette fois-ci, il l'a retouché sous mes yeux. Il a épaissi la chevelure, ajouté des ombres sur les joues. « Et comme ça ? » demandait-il. Je faisais non et il bidouillait un autre élément.
« Attends une minute, » l'interrompit Bobby. « Tu veux dire que le premier croquis était quelque chose qu'il avait fait lui-même, pas un croquis officiel de la police ?»
Au début, j'avais supposé que c'était l'œuvre d'un dessinateur de la police, mais vu comment monsieur l'agent spécial s'en donnait à cœur joie, j'imagine que non. Ces retouches s'intégraient parfaitement à la première image. « Qui aurait cru que les agents du FBI étaient aussi doués ?» dit Catherine en haussant les épaules.
« Donc il a retouché le dessin sous tes yeux. »
« Oui, mais ça n'a rien changé. L'homme du dessin n'était pas Umbrio, et on pouvait trafiquer les cheveux autant qu'on voulait, ça n'y changerait rien. C'est ce que j'ai dit à monsieur l'agent spécial, qui ne l'a pas trop bien pris. Il soutenait que je me trompais. Peut-être que la personne du dessin avait pris du poids, portait une perruque. »
Catherine releva un coin de sa bouche avec dédain.
« Franchement, j'avais 12 ans, qu'est-ce que j'y connaissais au déguisement ? Monsieur l'agent spécial m'avait posé une question, je lui avais donné ma réponse. Dès qu'il a commencé à me contredire, il m'a énervée.
« Alors, qu'est-ce qui s'est passé ?» relança Bobby.
« Je lui ai demandé de partir. »
« Il l'a fait ?»
Catherine hésita, prit sa tasse de café, la tint devant ses lèvres.
« Pendant un moment, j'ai cru qu'il n'allait pas le faire. Et je me souviens que rien qu'un instant, j'ai commencé à me sentir mal à l'aise. À ce moment-là, l'aide-soignante est entrée et monsieur l'agent spécial a filé. Au revoir et bon débarras, comme on dit. »
Catherine souffla sur la fumée de son café et prit finalement une gorgée.
« Tu l'as revu ?»«
Non. »
« Tu as parlé de ses visites à quelqu'un ?»
Quelques semaines plus tard, quand la police m'a finalement montré un éventail de photos, j'ai tout de suite reconnu celle de Richard Umbrio, mis le doigt dessus et dit « Il serait temps que vous m'écoutiez. » Les policiers ne semblaient pas comprendre de quoi je parlais, mais ça ne me surprenait pas. Même une gamine de 12 ans peut se rendre compte que les différents services de police ne s'entendent pas franchement bien.
Bobby répondit à cette remarque par un grognement.
« Et quelqu'un d'autre du FBI ? Tu as été interrogé par d'autres agents du FBI ?»«
Non. »
« Et ça ne t'a pas paru bizarre ?»
Nouveau haussement d'épaule.
« Pourquoi ? Je ne manquais pas de policiers qui s'intéressaient à mon affaire. Tous les hommes en uniforme de la Terre voulaient entendre jusqu'au moindre détail sordide. » Ça vous intéresse, les mecs ? Ça vous excite secrètement ? Vous restez seul dans votre bureau pour vous branler en relisant les récits de viol ?
Bobby ne répondit pas. Catherine avait des raisons d'être en colère. Il ne pouvait rien y faire après toutes ces années, elle n'y pouvait pas grand-chose non plus. Après un instant, le regard de Catherine s'adoucit, elle recommença à boire son café.
« C'était un imposteur ? » demanda-t-elle tout à coup.
« Le père d'Annabelle ? » ?»«
C'est pour ça que tu es là, non ? Parce qu'il mentait.
C'est ce que j'aimerais déterminer.
Il l'a emmené. Ça doit vouloir dire quelque chose. Quand sa fille a été menacée, il l'a protégée. À mon avis, il était autre chose que mathématicien.
Possible.
Elle ne fut pas dupe une seconde.
S'il ne faisait pas vraiment partie du FBI, pourquoi venir dans ma chambre d'hôpital? Pourquoi me poser toutes ces questions à la con?
Explosa-t-elle.
Pourquoi me montrer sans arrêt ce croquis?
Je ne sais pas.
Tu ne sais pas, ou tu ne veux pas me dire?
Demanda-t-elle avec amertume. Elle soupira et eut l'air tout simplement déprimé.
Tu as une maison magnifique, dit-il finalement. L'Arizona semble te réussir.
Oh, l'argent.
Je suis content de savoir que ça se passe bien avec Nathan.
C'est l'amour de ma vie,
dit-elle farouchement, et Bobby la crut. Il savait mieux que personne jusqu'où elle avait été prête à aller pour protéger son enfant. C'était pour cela que leur relation resterait toujours strictement professionnelle.
« Merci pour le café, » dit-il.
« Tu pars déjà ?»
Elle eut un sourire de regret, mais il savait qu'elle n'était pas surprise.
« Le taxi m'attend. »
Il crut qu'elle allait résister un peu, protester au moins. Au lieu de cela, elle quitta la table sans un murmure et le raccompagna à la porte. Il fut tenté de se sentir insulté, mais cela n'aurait été juste ni pour l'un ni pour l'autre. À la dernière minute, dans le vestibule, alors que s'approchaient les larges portes en noyer, elle lui toucha le bras. La sensation du bout de ses doigts sur sa peau nue lui fit un choc.
« Tu vas l'aider ?»«
Annabelle ? » demanda-t-il troublé. « C'est mon boulot. »«
Elle est jolie, »
murmura Catherine. Il ne répondit rien.
« Je le pense, Bobby. Elle est vraiment jolie. Quand elle sourit, ses yeux sourient aussi. Quand elle parle de tissu, surtout, elle est comme grisée. » Je me demande...
Catherine s'interrompit. Ils savaient tous les deux ce qu'elle voulait dire. Elle se demandait à quoi sa vie aurait pu ressembler si une Chevrolet bleue n'avait pas tourné dans cette rue, si un jeune homme ne lui avait pas demandé de l'aider à retrouver un chien perdu, si une fillette de 12 ans ne s'était pas perdue dans une fosse infiniment sombre. Bobby lui prit la main, pressa ses doigts entre les siens.
« Tu es jolie à mes yeux, »
lui dit-il tout bas. Il l'embrassa une fois sur la joue et s'en alla.